Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr.
Bienvenue pour une nouvelle émission géopolitique de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet. Le dossier de ce mois-ci est consacré au terrorisme. En vous abonnant, en faisant connaître Conflit également et en abonnant vos proches, vous permettez à la revue de se développer, ainsi de nous soutenir et de vous proposer un grand nombre de contenus, notamment ces émissions qui sont en accès libre. Alors cette semaine, nous allons aborder un sujet du sport, un sujet du surf. C'est un sujet, vous allez le voir, qui est extrêmement intéressant parce que au-delà du sport que l'on connaît aujourd'hui ou l'image que l'on en a, peut-être d'ailleurs imparfaite si on n'est pas un praticien du sujet, eh bien comme on va s'en rendre compte, derrière cet enjeu du sport, il y a des enjeux culturels, des enjeux économiques, des enjeux anthropologiques, et notamment en étudiant l'histoire du surf depuis les îles Hawaï, vous allez vous rendre compte qu'il y a derrière le surf une culture extrêmement profonde, une culture extrêmement riche, et que l'étude de l'histoire du surf et la diffusion du surf à travers le monde a beaucoup à nous apprendre. Pour évoquer ce sujet, je reçois cette semaine Jérémy Lemarié. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes maître de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Vous pratiquez également le surf et vous connaissez bien les différents lieux dont nous allons parler, notamment Hawaï et la Californie. Et vous venez de publier, enfin une réédition en format poche aux éditions Arkay, Surf, Histoire d'une conquête, donc ouvrage que l'on peut trouver aux éditions Arkay. Toutes les références sont à retrouver, comme chaque semaine, sur le site internet de Conflit. Alors on connaît le surf aujourd'hui pratiqué notamment en France au Pays Basque, évidemment les grandes plages de Californie, mais il y a une origine qui est extra-européenne, qui est origine d'Hawaï, et vous expliquez dans votre ouvrage que le surf n'est pas un sport à proprement parler, enfin du moins tel qu'il est pratiqué à l'origine, qu'il est lié à la culture des peuples de cette région et qu'il est lié aussi à la géographie particulière des villes, parce que pour faire du surf, il faut la mer et il faut aussi des vagues.
Oui, effectivement, vous avez raison. C'est vrai que la Polynésie dans son ensemble est considérée comme un haut lieu historique et anthropologique du surf. Alors avant toute chose, il faut toujours rappeler que des formes de glisse, c'est-à-dire finalement de se laisser porter par une vague depuis la mer ou le large vers le rivage, c'est quelque chose que un grand nombre de sociétés vivant proches de l'océan ou de la mer a fait. Notamment, on retrouve des formes de glisse en Afrique, on en retrouve aussi en Amérique latine, et même également en Asie. Il y a même des formes de glisse qu'on peut voir en mascaret, par exemple, sur certains pays d'Asie, y compris la Chine. Mais c'est vrai que l'Océanie dans son ensemble, c'est-à-dire si on inclut la Micronésie, la Mélanésie et ce fameux triangle polynésien, est considéré comme étant le lieu le plus développé dans la pratique du surf.
Alors on va expliquer un petit peu l'origine du surf parce que c'est vraiment passionnant et ça permet de comprendre beaucoup de choses pour la suite. Ce que vous expliquez dans l'ouvrage, c'est qu'il y a une dimension politique, anthropologique extrêmement forte, notamment autour de la planche, autour des clans. Avant cela, le surf suppose également un rapport particulier à la mer et à l'océan. Et on va, notamment tout à l'heure, on parlera du rapport de l'Europe à la mer au début du 20e, fin 19e. La pratique du surf suppose que la mer est, je ne vais pas dire contrôlée, mais enfin en tout cas vécue, appréciée, qu'on a un contact direct, qu'on n'en a pas peur et qu'on affronte directement la mer.
Ah, ça, c'est un des premiers contrastes que l'on peut mettre en avant entre les sociétés occidentales et les sociétés polynésiennes. C'est qu'effectivement, alors si on zoome directement sur Hawaï, lorsque l'on étudie ce que l'on appelle le rapport à la nature, le rapport à l'océan, on est dans ce que l'on dit une relation ontologique qui est ouverte vers la nature et qui la considère comme étant un acteur à part entière de la vie. Et donc, par conséquent, savoir surfer, comme savoir aussi interpréter tous les cycles naturels, c'est simplement savoir dialoguer avec autrui, comme ça serait une autre personne ou quiconque. Et par conséquent, voilà pourquoi on a des rites dans le surf qui sont par exemple dédiés à faire venir la houle, parce qu'on estime qu'il y a de réels dialogues entre les humains et la nature, ou les non-humains. Alors pour de Kalawai, on n'est pas vraiment dans une logique de dompter la nature, puisque finalement, cette société hawaïenne est bien consciente qu'elle est issue de la nature, hein, que l'espèce humaine, d'ailleurs, ne serait pas issue de grands dieux, mais provient bien de mutations depuis les animaux vers les humains. Et donc, en cette connexion avec la nature, et qu'ils doivent garder en permanence. Et donc, pour garder cette connexion avec la nature, je vous le disais, il y a des rites, on a des temples dédiés aussi, par exemple, à la pratique du surf. Et on a tout un système de relations visant, donc je disais, non pas à dompter, mais bien au contraire, en fait, à comprendre ce que le divin, sous-entendu la nature divine, cherche à nous faire comprendre lorsqu'il y a des houles, lorsque aussi il y a des vagues à surfer ici et là.
Quelle est la finalité de la pratique du surf chez tes populations hawaïennes? Est-ce que c'est pour, alors, je vais te dire des énormités, mais comme ça vous corrigerez et vous pourrez donner la bonne interprétation. Est-ce que c'est pour la pêche? Est-ce que c'est pour le transport? Est-ce que c'est pour le loisir? Aujourd'hui, c'est pour le loisir uniquement, mais est-ce que ça a une finalité pratique à l'origine?
Alors, c'est tout à la fois. Et c'est pour ça que Hawaï, finalement, peut être considéré comme un haut lieu du surf, c'est que cette pratique avait toute une multitude de fonctions. En fonction du contexte. Donc, je vous en donne quelques-unes. On peut, par exemple, donc vous l'avez dit, le transport. Il faut savoir que donc Hawaï, qui est un archipel composé de 8 îles principales, eh bien, avant l'arrivée des Occidentaux en 1778, il n'y a aucun moyen de transport. Il n'y a pas de chevaux, encore moins de mules pour se déplacer. Et donc, si on souhaite se déplacer au sein d'une île d'est en ouest, par exemple, c'est soit la marche, soit en fait la contourner en pirogue. Donc, on utilisait notamment la pirogue, et dans le cas de déplacements plus courts, des planches de surf, pour en fait se rendre d'un point A à un point B. Donc, il y a cette fonction de transport. Ensuite, il y a d'autres utilités. Il y a celle qui est liée, par exemple, à la fonction politique. Il s'avère que donc Hawaï était une société féodale, un peu comme on aurait l'habitude de le concevoir en Europe. Et cette société féodale qui est sans écriture, eh bien, repose sur la légitimation de l'autorité de la noblesse sur des roturiers. Et cette noblesse qui devait en permanence asseoir sa légitimité. Alors, ça se faisait de plein de manières, notamment par l'hérédité, comme on pourrait l'avoir. Hein. C'est la transmission du pouvoir par l'hérédité, mais par aussi la maîtrise d'un ensemble de jeux, notamment donc l'équivalent de jeux sportifs ou de joutes, pour montrer que eh bien, cette noblesse se confortait à l'étiquette royale. Alors, on avait bien évidemment des jeux qu'on connaît, comme l'équivalent de la boxe, mais des choses un peu plus étranges, comme le lancer et la réception de javelots. Donc, il fallait être en capacité, par exemple, de recevoir des javelots qu'on vous lançait à pleine vitesse. Et bien évidemment, la pratique du surf faisait aussi partie de cette étiquette royale. Et donc, il y avait des planches particulièrement dédiées à cette noblesse. Il y avait également des lieux de pratique qui étaient uniquement dédiés à la royauté. Et savoir bien surfer, ou également savoir parcourir de longues distances avec des planches de surf, faisait partie intégrante des pratiques royales pour confirmer leur autorité sur la population.
Ce qui est intéressant, face à ce que vous dites, c'est que ça rappelle, alors, toujours, on se méfie des comparaisons, mais la chevalerie en Europe, c'est un peu le même principe. Là, on n'est pas sur la maîtrise de la planche, mais sur la maîtrise du cheval. Mais finalement, on a la même origine, la même utilité, et puis pareil, une pratique guerrière qui après devient une pratique sportive, l'équitation aujourd'hui, par exemple.
Effectivement, c'est une bonne comparaison. C'est intéressant de voir ça d'ailleurs, parce que beaucoup d'écrivains qui découvrent le surf au 19e siècle font cette comparaison entre le surf et le cheval comme étant un mode de déplacement, mais aussi une pratique un peu chevalière, on dirait. Alors, ce qui donne la singularité aussi d'Hawaï, c'est que faut savoir que cet archipel composé de 8 îles, au moment où donc le capitaine Cook et ses deux vaisseaux, le Resolution et le Discovery, arrivent à Hawaï, en fait, on est dans un régime politique qui est éparpillé. Il y a précisément 4 royaumes en compétition visant en fait à unifier l'ensemble de l'archipel pour construire un empire. Et voilà pourquoi on retrouve Hawaï dans un état de guerre quasi permanent. Hein, environ 8 mois sur 12 sont dédiés notamment aux conquêtes, à la guerre, donc qui fait partie intégrante de cette vie hawaïenne, entre guillemets. Et puis, il y a tout de même une période de repos imposée chaque année, c'est la période des récoltes, qu'on appelle Makahiki. Donc, Makahiki veut dire simplement nouvelle année en hawaïen, année. Et cette période va environ de novembre à février. Donc, de novembre à février, toutes les joutes guerrières, enfin, la guerre hein, d'une manière générale, et on dit taboué, pour reprendre l'expression hawaïenne de kapu, qui est le tabou de la guerre, au profit donc de joutes sportives qui ont toujours pour la même fonction, finalement, de conquérir l'autre. Mais non plus par la guerre, donc par, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est joutes chevaleresques. Donc c'est là où on retrouve boxe, course à pied, course de pirogue, et bien évidemment compétition de surf.
Alors, il y a un élément indispensable au surf, c'est la planche. Vous montrez comment la planche, à l'origine, est liée à une pratique rituelle. Donc, il y a le choix de l'arbre. Il y a un prêtre qui vérifie, qui bénit l'arbre également, la manière dont la planche est réalisée. Donc, il n'y a pas qu'une fonction utilitaire de la planche, mais il y a une dimension beaucoup plus importante.
Oui, alors dans le cas de la planche, et c'est ce qui fait finalement la distinction, la plus grande distinction d'Hawaï avec le reste de la Polynésie, où on retrouve du surf par exemple aussi à Tahiti, c'est que les planches sont organisées et construites en fonction du rang du pratiquant. Donc très concrètement, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire la sélection d'un arbre par un prêtre, on l'observe, et puis on va effectuer toute une série de rituels pour construire cette planche à partir d'un arbre. Donc c'est un arbre endémique d'Hawaï. Pour le cas des planches nobilaires, c'est ce bois, c'est le vilivili, et le nom de la planche, c'est une planche holo. Eh bien, cette planche-là et cette cérémonie, d'ailleurs, est uniquement réservée à la royauté. Un citoyen ne va pas prendre autant de précautions et d'ailleurs n'a pas de prêtre dédié à cette pratique-là. Et donc, c'est intéressant de voir finalement une société qui est socialement ségrégée dans un système de rang et la possession des objets des individus est également aussi liée à ce rang social. Et la planche de surf en fait partie. Et pour revenir donc aux planches de surf plutôt dédiées aux citoyens, donc les holos des planches de surf royales sont celles où la pratique finalement est la plus facile. La planche est très longue, elle fait 3 mètres voire 3,50 mètres de long, peut peser jusqu'à 80 kg puisqu'on est on taille du bois massif. Et puis pour les citoyens, on est sur des planches plus courtes, alors soit l'équivalent, nous aujourd'hui, de ce que l'on appelle des longboards, c'est-à-dire des planches d'1,80 m, voire peut-être un peu plus court, 1,50 m pour une shortboard, fait à partir d'acacia. Alors c'est l'acacia endémique d'Hawaï, c'est du koa précisément, ou alors ce que l'on appelle aussi l'arbre à pin, qui est le hulu. Et puis ils avaient aussi l'équivalent de ce que nous on considère comme étant des boogie boards, ces petites planches sur lesquelles on peut surfer allongé. Et pareil, donc ces boogie boards qui étaient... Donc on a les alaya et puis on a les paipo pour les boogie boards qui étaient uniquement réservés aux citoyens.
Et aujourd'hui, selon la planche que l'on utilise, ça va avoir une conséquence sur la pratique du surf parce que vous expliquez qu'il y a des planches qui permettent de surfer en haut de la vague, sur la crête, alors que d'autres, on est plutôt au milieu de la vague.
Alors justement, c'est intéressant de voir d'ailleurs que la performance est en fonction des cultures. Donc aujourd'hui, en Occident, la performance dans le surf, c'est d'avoir des planches courtes, d'effectuer énormément de manœuvres, monter, descendre sur la vague, effectuer des virages radicaux, voire maintenant, en fait, de ce qu'on appelle des airs, c'est-à-dire littéralement s'envoler au-dessus de la vague pour effectuer des figures. À Hawaï, c'était possible. D'ailleurs, on le sait, ces personnes, par exemple, rentraient dans le tube, faisaient des virages, etc. Mais ce n'était pas ce qui est le plus valorisé ou ce qui était considéré comme étant le plus performant. Pour être performant et compétent dans le surf hawaïen, il faut être en capacité de surfer la vague la plus longtemps possible, c'est-à-dire finalement de surfer une vague avant qu'elle ne déferle, c'est-à-dire en fait finalement en voyant cette houle arriver. Donc voilà pourquoi il faut généralement une planche extrêmement longue pour pouvoir attraper une vague qui n'est pas encore devenue une déferlante. Et cette vague, il faut idéalement la surfer jusqu'à la plage. Et donc ça implique des glisses sur plusieurs kilomètres et d'ailleurs des glisses qui vont durer 2, 3, voire 4 minutes en se tenant debout sur une planche. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder n'importe quel surfeur en France, là cet été, si vous y jetez un œil, le temps de glisse dépasse rarement 20 secondes. Donc on est dans une autre dynamique, Et je dois avouer que, bon, voilà, étant historien, anthropologue et sociologue de cette pratique, lorsque moi-même, je me suis mis à, entre guillemets, surfer à la hawaïenne, il y a une vraie gratification de faire cela. C'est-à-dire de s'efforcer, finalement, de ne pas faire énormément de figures, mais de tenir la vague le plus longtemps possible. Et cette sensation qui est, finalement, de marcher de sa planche en touchant le sable, c'est quelque chose qui est assez gratifiant. Et je retrouve un peu les raisons pour lesquelles les Hawaïens considéraient ça comme étant la glisse la plus noble.
Alors, si on avance un petit peu dans le temps, alors il y a la découverte d'Hawaï par les Européens, notamment Cook, que l'on a évoqué, et puis le fait qu'Hawaï est rattaché aux États-Unis. Alors, d'ailleurs, c'est devenu un État officiel des États-Unis uniquement en 1959, le 50e État américain, mais c'était un territoire américain jusqu'en 1959. Et les Américains jouent un rôle important dans le développement de ce sport. On va voir d'ailleurs qu'ils l'ont introduit après en Californie. Ce qui suppose là aussi, et vous l'expliquez dans l'ouvrage, d'abord une rencontre avec une culture différente. La question aussi liée à l'hygiène, liée au sport, liée au rapport au corps également. Donc ça induit énormément de modifications sociales et de modifications dans la représentation du corps et de ses cultures.
Alors, pour remettre un peu en contexte et aussi un peu faire ce lien en géopolitique, Hawaï est découvert fin 18e siècle et réellement les échanges deviennent très soutenus durant tout le 19e siècle. Et comme vous le savez, le 19e siècle est un siècle de colonisation et aussi un siècle de construction des États-nations. La plupart des pays occidentaux réalisent leur unification nationale. On a déjà la France en 1789, on a aussi l'Italie avec le Risorgimento de mémoire en 1848 et aussi l'Allemagne après la victoire contre la France dans les années 1870. Et donc, on est dans ce contexte, finalement, d'émergence d'États-nations, de puissances internationales, et toutes ces grandes puissances internationales, donc les Britanniques, les Français, mais aussi les Allemands, on a aussi la Russie, et bien évidemment les États-Unis, vont se rendre à Hawaï. Et à ce jeu des échanges avec les Hawaïens, c'est avant tout les Britanniques qui vont servir un peu de modèle de référence pour cette société hawaïenne qui va progressivement se transformer en régime féodal vers une monarchie parlementaire typiquement calquée sur le modèle britannique. Et les États-Unis vont avoir une importance grandissante, notamment par l'intermédiaire de leurs missionnaires. Donc les missionnaires calvinistes arrivent en 1819 à Hawaï, au moment où justement le régime politique est en train de se transformer. Et ces missionnaires vont curieusement avoir un certain succès auprès des Hawaïens, puisque cela va être eux qui mettent sur écrit la langue hawaïenne. C'est-à-dire que les Hawaïens vont apprendre à écrire leur propre langue de la part de ces missionnaires américains. Et les Hawaïens, en fait, se sont portés de passion par cette langue, car ils se sont rapidement rendus compte qu'ils pouvaient sauvegarder leur culture, leur histoire, leur héritage par l'écrit. À tel point que déjà dans les années 1850, il y a toute une presse et toute une littérature hawaïenne foisonnante visant finalement à sauvegarder, et c'est grâce à cela aujourd'hui qu'on peut retracer cette histoire hawaïenne, qui vise donc à sauvegarder tout cet héritage. Et les États-Unis donc prennent de l'influence par ces missionnaires, par aussi ces hommes d'affaires qui vont commencer à investir l'économie de la plantation, notamment canne à sucre, on a aussi ananas et dans une moindre mesure le café. Et je vous amène là vers les années 1870, notamment 1874, où la plupart de ces hommes d'affaires américains, mais aussi désormais hommes politiques américains qui progressivement appartiennent au Parlement puis au gouvernement hawaïen, eh bien, vont se plaindre d'une trop grande dépendance par rapport aux États-Unis, notamment au grand continent. Puisque là, une fois que l'économie hawaïenne se reconvertit vers ce que l'on appelle l'économie de plantation, elle se met à vendre le sucre sous forme de mélasse aux États-Unis et en devient extrêmement dépendante. Sous-entendu, l'économie hawaïenne ne fonctionne parce que les États-Unis le veulent bien. Mais les États-Unis peuvent se fournir ailleurs qu'à Hawaï. Et donc, il y a une pression sur les prix à tel point que ces hommes d'affaires et ces hommes politiques cherchent par tous les moyens à éviter cette puissance américaine. Et à ce sujet, par exemple, la cession de Pearl Harbor aux États-Unis vient de cela. C'était pour diminuer les taxes douanières qu'imposaient les États-Unis sur Hawaï. Et arrivé donc au début du XXe siècle, on a donc cette économie du tourisme qui va émerger dans l'objectif de s'émanciper de cette puissance états-unienne et de cette dépendance.
Il y a un texte que vous citez qui est intéressant. Il y a eu une chute des prix du cours du sucre, et donc voilà. Ça a causé pas mal de problèmes évidemment à Hawaï.
C'est ça.
Et vous citez un texte qui dit, finalement, abandonnons le sucre et passons au tourisme. C'est une industrie qui va permettre de développer l'île et de créer pas mal d'emplois. Et donc, passage au tourisme, alors ça suppose de créer des hôtels, bien évidemment, et ça suppose aussi la création d'une sorte de typicité. C'est-à-dire que Hawaï, ce sont certes les paysages, mais c'est aussi la culture. Et donc, on en vient à la création, la mise sous cloche, mais en tout cas la valorisation d'une culture d'origine qui va être ainsi mise en avant pour attirer les touristes.
Alors, vous avez tout à fait raison, et j'en profite pour revenir un peu en arrière, parce que vous avez parlé d'hygiénisme un peu plus tôt. Et le tourisme, en partie, émerge grâce à deux grands courants, qui est le romantisme, ce courant littéraire bien connu du 19e siècle, en France et bien évidemment aussi en Europe et dans le monde occidental, et l'hygiénisme. Alors, il faut savoir que ces échanges à Hawaï tout au long du 18e siècle sont avant tout des échanges commerciaux. Il y a trois grands commerces transpacifiques, celui du bois de santal, des fourrures et également de l'huile de baleine, voilà, celui-ci m'échappait. Et on va avoir à bord des vaisseaux d'abord des médecins, des chirurgiens qui sont là pour prendre soin des matelots au sein de ces vaisseaux. Et ça va être un premier regard, c'est un regard hygiéniste, mais aussi touristique à la fois, puisque on va voir ce regard-là de la part des chirurgiens, certains diplomates, qui vont se rendre compte que le discours hygiéniste que l'on tient au 18e, 19e siècle en France, c'est de dire la plupart des maux de la civilisation peuvent se corriger par le bain en mer, et notamment ce que l'on appelait le bain à la lame, c'est-à-dire se laisser fouetter par les vagues. Il y a certaines cités qui se sont développées comme cela. Donc, dans le nord de la France, on peut penser à Dieppe, par exemple, qui était une destination célèbre. Et l'idée, donc, c'était de se laisser fouetter par le bain à la lame. Et donc, on avait à la fois des vertus hygiénistes, mais aussi toute une économie du tourisme, une sorte de tourisme de la santé qui se développait à ce moment-là. Et ces chirurgiens, médecins et certains diplomates constatent que le surf posséderait les mêmes vertus curatives, c'est-à-dire finalement vous êtes dans les vagues, vous faites tout ce que les médecins préconisent, sauf qu'ils constatent que tous les Hawaïens le font et en quelque sorte par nature, si on peut utiliser cette expression-là. Et donc on va avoir tout un courant hygiéniste qui va d'une part encourager le surf et continuer à le dynamiser. En comparaison, certains missionnaires vont chercher au contraire à le faire disparaître. Et on va avoir aussi certains écrivains romantiques qui vont se rendre à Hawaï. Donc, par exemple, Herman Melville en est un des plus connus. Et pareil, vont louer les vertus curatives du surf, mais aussi tout l'aspect de confrontation avec la nature qui est très bien connu dans le mouvement romantique. On va l'aspect aussi d'admiration de l'océan, de l'horizon, de la découverte. Et c'est dans ce contexte-là que le tourisme hawaïen va émerger. On arrive ici au début du XXe siècle. Et donc, ce sont essentiellement des hommes d'affaires d'Honolulu qui ont déjà constaté les prémices de ce tourisme à Hilo. Donc, Hilo, vous êtes ici sur la grande île, qu'on appelle en anglais Big Island. Et à Hilo, les destinations, enfin, ou plutôt les attractions touristiques les plus connues, c'est encore le cas aujourd'hui, c'était la visite de volcans en éruption. Hawaï est encore une seule région du monde où on peut se rapprocher et observer des volcans en pleine éruption. Et donc, on peut par conséquent aussi observer cette île, Big Island, en train de grossir. Et donc, on avait observation de volcans, on avait aussi... Alors, les chevaux ont été importés progressivement, donc on avait des balades à cheval, notamment le long des côtes. Et c'est lors de ces moments-là que ces touristes, donc Mark Twain, par exemple, en faisait partie dans les années 1850-1860, commençaient à rédiger, c'est une prose très romancière, leur observation d'Hawaïens en train de surfer. À tel point qu'on va commencer même à... Parfois, lorsqu'il n'y a pas de surf ou il n'y a pas de houle, on va payer des Hawaïens. Donc là, on arrive sur des transactions marchandes. On va rémunérer des Hawaïens pour les voir surfer, bien que les vagues ne soient pas extraordinaires, etc. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, finalement, voir quelqu'un marcher sur l'eau. C'était l'expression utilisée. Vous voyez, il y a un côté messianique là-dedans et divin. Cette personne est en capacité de marcher sur l'eau. Et d'ailleurs, seule elle est en capacité de le faire. Donc ce tourisme-là, on a très bien compris finalement, ces hommes d'affaires ont compris qu'il y avait finalement une plus-value dans la culture hawaïenne. Alors il y en a d'autres, il y a la danse hula par exemple, cette fameuse danse hawaïenne que l'on a à l'esprit, faisait partie finalement de l'identité nationale hawaïenne qui était en pleine construction. Il faut savoir que ici on est en 1893, il y a déjà un renversement de la couronne, donc là on est dans une instabilité politique pendant 5 ans. En 1898, les États-Unis finalement font d'Hawaï un territoire, donc on n'en est pas, vous l'avez dit, encore au stade d'État. Mais malgré tout, la royauté hawaïenne existe encore, mais elle est déchue. Et donc, va tout faire pour créer ce que l'on appelle une identité nationale à la manière des États-nations, finalement, occidentaux. Bien, le tourisme, et notamment le surf et la danse hula, va faire partie de l'identité nationale hawaïenne. Et on va avoir ce que l'on appelle nos équivalents de premiers clubs de surf, qui vont être donc dédiés uniquement à inculquer la pratique aux touristes. On a ce qu'on appelle le Hui Pakaka Nalu, en 1897, c'est le surf en pirogue. Et puis, un club qui est typiquement un club à la manière anglaise ou britannique, comme on a l'habitude de le voir, c'est le Outrigger Canoe Club, 1908, et en même moment, un club plutôt constitué d'Hawaïens, qui est le Hui Nalu.
Alors, dans votre ouvrage, vous avez mis beaucoup d'illustrations, de gravures, de photographies, donc ça permet aussi de se rencontrer à la fois du paysage d'Hawaï et puis de la manière dont c'était pratiqué, notamment au cours du 19e siècle. Et avec cette rencontre d'Hawaï, donc le tourisme qui se développe, on voit également les Américains, cette fois-ci, se mettre aussi au surf. Et donc, la pratique quitte le domaine purement hawaïen pour aller donc chez les Américains, et donc on abandonne ce qu'on a évoqué en début d'émission, l'aspect culturel, l'aspect cultuel aussi, pour devenir uniquement une pratique de loisir, une pratique sportive.
Alors, rien de ça. Alors, il faut savoir que ces touristes qui se rendent à Hawaï au début du XXe siècle, ce sont des fortunés. Et donc on va avoir pas que des Américains, des Britanniques aussi, mais parmi eux on peut citer Jack London, qui est un des plus connus. Et ça va être un des premiers à rédiger une véritable éloge au surf. Et il a été encouragé donc par ces fameux hommes d'affaires d'Honolulu. Et ces hommes d'affaires d'Honolulu vont tenter donc de dynamiser le tourisme à Hawaï. Mais c'est comme ça que le surf arrive en Californie. On va rémunérer certains Hawaïens pour qu'ils puissent faire des démonstrations en Californie, afin de montrer à quoi le surf ressemble et d'expliquer à ces touristes potentiels que s'ils veulent aussi surfer, ils doivent se rendre à Hawaï. Alors, les premières démonstrations de surf se font un peu de manière sporadique. Alors, on a des princes hawaïens qui vont surfer à Santa Cruz, par exemple, en 1885. Puis, on le connaît maintenant, un hawaïen qui s'appelle John Aiea, qui va surfer à San Francisco en 1893, puis rémunéré par des groupes hôteliers pour surfer à San Diego, notamment à La Jolla, pareil en 1893. Mais le plus connu est George Frith. George Frith, issu d'un père irlandais et d'une mère hawaïenne. Et Frith donc, va être armé de l'aide de soutien de l'Office du tourisme hawaïen, mais également de l'Outrigger Canoe Club, et aussi d'ailleurs une aide de soutien de Jack London. Et il se rend en Californie donc pour promouvoir le surf à Hawaï. Et curieusement, une fois qu'il se rend en Californie, il y trouve des vagues qui ne sont pas si mauvaises que cela. Et surtout, il constate une chose, c'est qu'il a un succès fulgurant. Il est notamment embauché par des développeurs immobiliers et des manias de chemin de fer, puisque c'est le moyen de transport de l'époque, notamment Abbot Kinney pour Venice. Vous connaissez sans doute Venice Beach, qui est une cité balnéaire de la banlieue de Los Angeles très connue. Et puis, on a aussi, par exemple, d'autres villes au sud, comme Huntington Beach, qui, elle, est développée par Henry Huntington. Et là, c'est George Frith qui va donner des démonstrations de surf et bien rémunéré. Mais aussi, il constate une chose, et c'est assez flagrant lorsque l'on lit la presse comme le Los Angeles Times de l'époque, il constate des noyades à répétition, y compris des noyades par des maîtres nageurs sauveteurs qui décèdent lors de leurs entraînements. Imaginez-vous, vous êtes sauveteur nageur volontaire à cette époque, vous vous entraînez et durant vos entraînements, vous êtes même en incapacité de sauver vos camarades. Et donc, il se met en fait à inculquer les techniques de natation et de sauvetage en mer à la plupart des clubs de sauvetage en mer de l'époque en Californie du Sud. Donc à tel point que le surf n'est pas encore réellement une activité de loisir, hein, début 20e siècle, hein, en 1907, 1920 et 1930. Le surf, c'est avant tout une activité de sauvetage en mer. Hein, les planches sont utilisées par le sauvetage en mer à la manière des techniques hawaïennes. D'ailleurs, les techniques qu'on utilise aujourd'hui en France nous viennent d'Hawaï et notamment de George Freese. Et le surf va progressivement tout de même se développer en divertissement, mais ça va toujours se faire de la part de ces sauveteurs en mer. Hein. Ce sont ces clubs de sauveteurs en mer qui vont être les premières à développer des compétitions de surf qui vont arriver en Californie dans les années 1930. Et on va avoir ce fameux boom, entre guillemets, typiquement comme on le connaît, c'est-à-dire surf loisir et divertissement après la Seconde Guerre mondiale.
Et donc là, on est passé de d'Honolulu à Malibu. Et comment est-ce que cette pratique arrive après en Europe ? Dans votre ouvrage, il y a une photo assez saisissante d'une pratique du surf à Paris sur l'île aux Cygnes. Donc on est sur une île au milieu de la Seine. Là, ce n'est pas les meilleures vagues, je suppose. mais en tout cas, on présente ainsi aux Parisiens cette pratique. Et ça a peut-être pu contribuer aussi à la diffusion du surf après en France.
Alors oui, dans le cas de cette photo, donc précisément, c'est une photo donc de Duke Kahanamoku, qui est considéré comme étant le père fondateur du surf moderne. Alors Duke est contemporain de Freese, mais comparé en contrastant avec Freese qui décide lui d'être rémunéré, Duke lui décide de rester finalement un sportif amateur et va être connu notamment pour ses Olympiades. Hein. Il va, excusez-moi l'expression, mais c'est littéralement le cas, hein, puisqu'il va exploser le record du monde en natation à Stockholm, notamment de plus de 4 secondes, donc le 100 mètres nage libre. Donc là, on est en 1912 et cette photo... Alors là, ici, Duke ne fait pas une démonstration de surf, mais c'est une démonstration de natation donc dans la Seine. Et vous voyez, donc il se situe sur l'île aux Cygnes. Et c'est intéressant de voir sur son maillot, on retrouve le logo de ce fameux club, la Trigger Canoe Club. Donc on voit ici directement le lien entre surf et natation. Et c'est comme cela que finalement, le surf aussi s'est bien développé. C'est que... Eh bien, pour savoir surfer, il faut d'abord savoir nager. Et donc on est dans un univers plus large que celui du surf, que celui de la natation, du bain en mer... d'une manière générale. Et effectivement, les Français... Alors, c'est intéressant à noter, hein, parce que pour la petite anecdote, il y a l'entreprise Pathé, qui, déjà au début du 19e siècle, comme l'entreprise de l'époque de Thomas Edison, qui était les premières à être en capacité, finalement, de filmer hein, et de développer le cinéma comme on le connaît aujourd'hui. Eh bien, l'entreprise Pathé, certains, notamment... caméramans se sont rendus là-bas au début du XXe siècle à Hawaï pour enregistrer les premières bobines de surf à Waikiki. Et d'ailleurs, ce film-là, donc ça s'appelait, je crois, Le surf à Hawaï, aussi simplement que ça, a été diffusé à Rouen. Donc cette diffusion, donc les Français ont pu déjà découvrir le surf à Rouen dans les années 1910.
Aujourd'hui, en Europe, quels sont les grands lieux du surf ? Alors, il y a le Pays Basque, certes, mais il y a d'autres endroits aussi où on pratique ce sport ?
Alors, oui, aujourd'hui, le surf est largement mondialisé. Alors, donc, dans le Pays Basque, puisque c'est là que le surf, avec des planches comme on les entend, hein, ces planches californiennes, est arrivé en 56-57. Il faut tout de même savoir qu'on surfait hein, en France, notamment dans ce que l'on appelait des planquis. Là, j'étais surpris de voir des photos de surfeurs en planquis, donc c'est équivalent des boogie boards, à la côte des Basques, déjà dans les années 20, ça se faisait. Mais c'est vrai que... voilà, ce surf avec planche longue, se tenir debout. On arrive dans la fin des années 50 en France. Et puis, ça se fait aussi beaucoup, donc les hauts lieux du surf aujourd'hui. Hein. En Europe, on a bien évidemment, si on doit parler du surf de grosses vagues, c'est Nazaré, enfin, incontournable. Donc le Portugal, toute la côte nord de l'Espagne est très riche. Elle est méconnue hein, du grand public. Mais quant à la Cantabrie, on a les Asturies, ensuite la Galice, ont des vagues de très bonne qualité. Pareil pour l'Irlande, beaucoup de comtés d'Irlande qui sont connus avec des villes comme Sligo. Alors on a aussi, si on descend plus au sud, bien évidemment après on a le Maroc qui est très, très réputé pour la plupart des surfeurs européens.
Donc c'est la façade atlantique.
Exactement, la façade atlantique et pour ne pas se méprendre, il y a aussi du surf en Méditerranée. Hein, ça surprend beaucoup de personnes, mais voilà, il y a du surf à Marseille par exemple, on a aussi du surf à Perpignan. On a aussi, si on sort de la France, on a du surf en Italie, etc. Alors, en Corse aussi, pour rester dans le cadre français. Mais vous voyez que, alors les vagues ne sont pas d'aussi bonne qualité puisque finalement ce sont des houles de vent, c'est-à-dire générées par des vents, et le vent n'a pas beaucoup de kilomètres à parcourir en Méditerranée comparé à d'autres océans comme l'Atlantique. Mais tout de même, il y a des vagues. Et ça, enfin, avec finalement, on peut dire, la popularité croissante du surf depuis ces 50 dernières années, et ça ne cesse d'être populaire, eh bien, à mon avis, on va voir de plus en plus de surfeurs en Méditerranée.
Est-ce que le surf est pratiqué en dehors du monde occidental, en Asie par exemple? Est-ce que c'est un endroit où ce sport s'est implanté?
Alors oui, comme je vous le disais, le surf a été pratiqué dans de nombreux autres continents. Donc on a le cas du Pérou avec ce qu'on appelle des caballitos, qui étaient finalement des petits engins de pêcheurs qui glissaient sur les vagues. On avait aussi le cas de surfeurs au Ghana, pour l'Afrique et pour l'Asie. C'est intéressant de voir parce que il y a finalement, c'est pas réellement un chercheur, mais c'est un passionné de glisse. Il est italien, il s'appelle Nick Zanella, par exemple. Et lui a passé de nombreuses années à étudier le surf en Chine. Et il a démontré qu'il y avait, depuis plus de 1000 ans, des surfeurs en Chine, mais qui surfaient uniquement sur ce que l'on appelle le mascaret. Donc, le mascaret qui se faisait... Alors aidez-moi,
c'est la rencontre, enfin lorsque le fleuve se jette dans la mer.
Oui, voilà, c'est ça.
Et la rencontre entre le fleuve et la mer, donc ça fait une vague.
Voilà,
qui peut être très 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 puissante.
Et on a donc à Canton ce fleuve qui est immense, et le mascaret également est immense puisqu'il remonte sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et aujourd'hui, on a même une compétition de surf sur ce mascaret. Et on voyait déjà cela. Donc, on a des écrits en Chine. On a même des gravures et des sculptures montrant ces surfeurs. D'ailleurs, ils portaient un drapeau pour pouvoir les identifier. Et donc, c'est assez intéressant. Et pour voir aujourd'hui, le surf en Chine est notamment plus connu sur des provinces plus ou moins autonomes. Donc, c'est le cas de Hainan, qui devient un haut lieu du surf en Chine. Alors on sort du contexte, on est quand même dans le contexte chinois, mais on est sur ici quand même un état plus autonome qui est Taïwan. On a aussi beaucoup de surf à Taïwan. Le Japon aussi, ce n'est pas aussi pour rien que le surf aux Jeux Olympiques se fait au Japon, puisque depuis, on va dire, les années 50, il y a une vraie histoire du surf japonaise qui est méconnue de la plupart d'entre nous occidentaux. Mais j'ai notamment des collègues qui travaillent au Japon et qui investissent tout ce champ de la recherche qui est assez... fructueux. Et puis je terminerai quand même avec la destination incontournable qui est l'Indonésie. Il est intéressant de voir comment finalement l'Indonésie pour les Australiens était l'équivalent du Mexique pour les Californiens. C'est-à-dire que dans les années 60-70, on a tous ces Californiens qui déjà se retrouvent en surnombre sur leur propre plage à Sydney ou à Freshwater par exemple, dans la banlieue nord de Sydney, et vont alors aller vers ces pays pour découvrir de nouvelles vagues. On est dans ce que l'on appelle le surf trip. Et donc, on a, dès les années 60-70, toute une industrie touristique du surf en Indonésie, par exemple.
Ce qui est amusant aussi, c'est de voir comment, dans le vocabulaire courant, la pratique du surf a infusé. D'ailleurs, on dit surfer sur Internet, surfer sur la vague. Donc, même pour des gens qui ne pratiquent pas le sport, il y a beaucoup de mots qui sont devenus des expressions courantes.
Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant à voir. Et on voit la même chose inverse, c'est-à-dire que le surf possède son propre jargon. Par exemple, alors je vais utiliser le jargon anglo-saxon parce que finalement, ce surf, je connais beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, bien que je sois français, mais c'est comme cela que j'ai appris le jargon. Donc, aller à l'eau, c'est going out. Rentrer de sa session surf, c'est going in. Faire un canard, c'est un duck dive, ça veut dire plonger sous une vague. Et puis les vagues, on les prend en droite, on les prend en gauche. Donc on peut voir déjà qu'il y a tout un jargon et un argot qui a été développé par les surfeurs, ce qui en fait une réelle culture. Et inversement, comme vous dites, il y a eu une partie de ce jargon qui a intégré finalement le langage courant. Et comme par exemple surfer sur Internet. Alors c'est difficile parce qu'il y a très peu de recherches là-dessus. Je ne suis pas spécialiste de la linguistique et encore moins de sémiologie, mais je pense qu'on peut quand même émettre l'hypothèse que finalement, comme vous le savez, depuis les années 90, le surf est devenu, excusez-moi l'expression, c'est un raccourci, mais est devenu cool. Une pratique qui était déviante, encore associée à la consommation, par exemple, de drogue, à tort à certains égards, parce que certains surfeurs, au contraire, étaient volontaires pour devenir des athlètes professionnels, donc sans drogue. Mais le fait est que le sens commun associait le surf à, aux fumeurs de pétards, aux cheveux longs, etc. Et dans les années 80-90, on a un tournant quant à l'image du surf qui devient de plus en plus cool. Parfois, on parle de ces années fun, hein, avec ces combinaisons très colorées. On est sur des couleurs fuchsia, etc. Et donc, le surf devenant cool, eh bien, le langage courant va s'approprier certains éléments de ce jargon, dont, par exemple, le cas de surfer sur Internet.
Dernière question, j'avais mis le marié, la question de la professionnalisation du sport et notamment sa médiatisation. Donc ça suppose aussi de passer par la télévision. En plus, le surf est très visuel, donc c'est très impressionnant à regarder. Et là, on aborde un autre domaine du sport qui va être sa marchandisation ou sa diffusion comme produit de consommation, non pas uniquement pour les praticiens, mais aussi pour ceux qui regardent. Et donc, derrière, on suppose les droits sportifs, les droits de retransmission, etc.
Oui. Alors ça, c'est intéressant de voir. C'est un... Comment dirais-je ? Il y a tout un élément dans la culture surf qui a cherché à... beaucoup de surfeurs et d'athlètes ont cherché une reconnaissance de la part de la société civile. Une reconnaissance comme étant un sport à part entière, méritant donc des dotations monétaires, des compétitions, une reconnaissance olympique. Et donc ce mouvement professionnel a tout fait pour que le surf soit ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire agréable à regarder, c'est-à-dire aussi télégénique, qui soit entre guillemets un sport propre, c'est-à-dire avec des athlètes qui représentent bien, ont les cheveux courts, sont rasés. Et donc, il y a eu tout un courant, on peut peut-être pas utiliser le mot de lobby, mais tout de même, il y a eu toute une sorte de lobbying, en tout cas, toute une démarche marketing, notamment de la part d'organisations. Alors, c'est d'organisations américaines, hein. Ça a été ce que l'on appelait dans les années 60 l'International Professional Surfer, 60-70. Après, l'Association des surfeurs professionnels, l'ASP, dans les 90, aujourd'hui, ça s'appelle la World Surf League, la WSL, donc la Ligue de Surf Mondiale. Et il y a eu vraiment un travail de plaidoyer et de lobbying de la part de ces surfeurs auprès des sponsors, aussi gros qu'ils soient. On commence déjà avec des entreprises pétrolières dans les années 60, des entreprises d'alcool, hein, comme par exemple des entreprises de boissons de vodka dans les années 70, et aussi bien évidemment des boissons de soda ont été largement sollicitées par les surfeurs comme étant des sponsors privilégiés. Et puis, on a aussi un plaidoyer fait auprès des élus politiques. Alors, c'est quelque chose sur lequel, à mon sens, les élus politiques sont... Enfin, les surfeurs sont un peu en retard en France là-dessus. Mais vous connaissez peut-être le monde anglo-saxon qui est très marketing et plaidoyer. Eh bien, on va avoir énormément d'industriels, donc des grandes entreprises, hein, internationales, dont certaines californiennes, qui font du plaidoyer auprès des élus politiques pour valoriser la pratique, leur expliquer qu'il y a des retombées économiques substantielles, que ce soit dans la fabrication de planches ou dans la réalisation et la tenue d'événements sportifs. Et ça, c'est quelque chose qui, ce n'est pas arrivé par nature. Il y a un réel effort qui est méconnu du grand public de la part de ces surfeurs pour montrer qu'ils pouvaient être aussi célèbres, devenir aussi célèbres que, par exemple, des footballeurs ou des basketballeurs.
Ce qui suppose aussi derrière le développement d'entreprises liées au surf. Exactement. Pour faire les planches, pour faire les vêtements également. Donc là aussi, on a et puis des produits qui après vont être même utilisés par les gens qui ne pratiquent pas le surf directement, mais qui, par l'image positive qu'ils leur envoient, vont acheter tel ou tel vêtement qui se réfère à ça.
Alors ça serait ce que l'on appelle la distinction entre... Alors, on a la culture surf et puis on a la culture plage. Ça, c'est des démos. Là, par exemple, je vous reprends. Donc, j'ai eu la chance d'interroger des dirigeants de ces grandes multinationales, comme par exemple le dirigeant de Vans. Et c'est ce qu'il me disait. Il disait, il y a ce qu'on appelle la beach culture, où cette culture de plage, c'est de la consommation de masse. C'est-à-dire, vous et moi, bien que nous soyons aujourd'hui à Paris, nous pouvons nous habiller en board short, c'est-à-dire en Bermuda, avoir tout l'attirail du surfeur, sans jamais porter une planche sur le bras ou se tenir debout sur une planche. Pourtant, le Bermuda a bien une fonction. Cette coupe longue est faite pour éviter l'irritation, des cuisses sur la planche. Aujourd'hui, vous voyez bien que ce Bermuda, personne n'en connaît finalement son utilité originelle. Et cette beach culture, finalement, a commencé à bien fonctionner dans les années 60 avec ce surf boom où les studios hollywoodiens ont commencé à capitaliser sur son image, donc énormément de films à succès dans les années 60, sur ce qu'on appellerait cette beach culture dont le surf en fait intégralement partie. Et donc on va élargir et on va utiliser l'imagerie surf pour finalement produire et vendre tout un attirail de produits et de services associés vaguement au surf, donc le Bermuda, les lunettes de soleil, que sais-je encore. Et on va aussi élargir même les pratiques elles-mêmes. Donc c'est le cas de ce que l'on appelle aujourd'hui le stand-up paddle, fait partie de ces stratégies marketing visant finalement à sortir de ce qu'on peut dire d'un marché de niche qui est uniquement réservé à des spécialistes pour en fait ouvrir aux néophytes.
Bien, merci beaucoup, Jérémy Lemarié, d'avoir évoqué le surf et à travers lui la culture et l'histoire qu'il véhicule. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Surf, histoire d'une conquête, qui est paru aux éditions Arquet, dont on peut retrouver les références sur le site internet de Conflit et puis également sur notre site internet. Vous pouvez retrouver notre numéro actuellement en kiosque dont le dossier est consacré au terrorisme et puis nos anciens numéros dont d'ailleurs un dossier que nous avons consacré à la géopolitique du sport où vous pourrez retrouver de nombreuses thématiques et exemples qui ont été abordés au cours de cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission géopolitique.